Radio G. 101.5 FM.
Vous êtes à l'écoute d'Imaginaire sur le 101.5. J'attends que Pierre-Marie arrive dans le studio du Radio G. Il doit nous présenter le dernier roman d'Aurélie Wellenstein. On aura aussi une chronique de Seb et puis d'Anou, le Twitcher des livres dont vous êtes le héros, qui reviennent sur un de leurs livres-jeux fétiches, qui nous emmènera à la préhistoire. On écoutera aussi l'interview de Marguerite Imbert enregistrée aux Utopiales. Et puis, on vous parlera aussi de la nuit de la lecture qui aura lieu le samedi 21 juin, notamment à la médiathèque Toussaint, où on fera quelques petites animations. Et on commence en musique avec les Atlantiques, groupe de rock'n'roll instrumental surf music de Nantes, qui seront vendredi au Joker's Pub. Atlantique, donc, qui seront vendredi en concert au Jokers avec le morceau Baby Gorilla. Pierre-Marie n'est toujours pas dans le studio, donc on va commencer par s'écouter la chronique que nous ont enregistrée Seb et Danou sur les traces du grand mammouth.
Hey Radio G, et merci à Sébastien de me permettre d'ajouter mon avis sur le grand mammouth. Je suis Danou, streamer de livres dont vous êtes le héros et passionné par ces derniers depuis bientôt 35 ans. Que dire du grand mammouth sinon que c'est pour moi, donc personnellement, le livre qui m'a fait basculer dans l'énorme marmite que sont les livres-jeux en général. C'est vraiment le premier bouquin que j'ai pu tenir entre mes mains et ouais, j'ai directement croché, donc peut-être j'ai un avis plus personnel, émotionnel, j'ai envie de dire, sur ce volume-là. C'était en cinquième primaire, donc pour l'âge suisse, ça représente 10 ans. Je l'ai fait de long en large, en travers, et même à la fin, j'ai fait paragraphe par paragraphe pour tout découvrir quoi, de ce livre. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est pas l'encyclopédie, mais je l'encadrerai, ce bouquin, c'est vite vu. D'ailleurs, je devrais peut-être le faire. Certes, il n'est pas bien long, ça c'est sûr, mais pour un jeune qui débute, pour moi, j'ai trouvé qu'il avait toutes les bonnes mécaniques. Je l'ai refait, si je me souviens bien, il y a 6 ou 7 ans, Et je ne cache pas, avec l'âge un peu plus mûr, l'aventure n'est pas très difficile, par contre parfaitement indiquée pour un débutant, également au niveau des règles. Dans le Grand Mammouth, vous êtes un homme de Cro-Magnon, donc ça c'est la base. Hein. Le but est de trouver simplement le cimetière perdu des mammouths pour récupérer des ossements de celui que la tribu vénérait. Il y a une seule chose à faire durant tout le livre, forcément, c'est survivre, arpenter les chemins jusqu'à trouver le bon... Et en un seul morceau, bien sûr, survivre, c'est... voilà quoi. Depuis tout petit, je suis fan des dinosaures et la préhistoire en général, cela a peut-être aussi joué sur mon lien très fort pour ce livre. D'ailleurs, je n'ai jamais recroisé un livre dont vous êtes le héros qui se passait dans cette époque. Il y a l'Empire des Hommes Lézards, mais c'est clairement... c'est pas du tout la préhistoire, mais ouais, ça, c'est dommage. Je trouve qu'ils auraient pu faire beaucoup plus d'histoires sur ça, mais bon, c'est comme ça. Le bestiaire, personnellement, je le trouve cohérent avec l'histoire. Il n'y a pas énormément d'ennemis variés. Hein. Il y a des fauves, différentes tribus... Et surtout des pièges, et il y a les petits jeux aussi à faire dans ce volume. Rien d'extraordinaire, mais suffisant, je pense, pour crocher le héros à l'aventure. Donc pour moi, comme je l'ai dit, c'est clairement le livre qui m'a balancé dans cette passion. Donc même si les critiques sont très variées, même moi, je l'ai fait il y a quelques années en arrière, je le trouve très simple. Pour moi, c'est le livre phare, comme pour d'autres personnes. Ce sera, par exemple, Marée aux Scorpions, qui est aussi excellent. Hein, mais voilà, vous avez compris le principe. C'est le premier bouquin, c'est celui qui m'a lancé dans les livres dont vous êtes le héros. Et c'est le top du top. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous allez quand même crocher à cette aventure qui est vraiment fantastique. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.
Merci à Danou pour son bref retour sur le Grand Mammouth. Un livre à remonter le temps de 180 paragraphes plus introduction, qui date de 1986, et avec un desquels j'ai réattaqué quant à moi les livres dont vous êtes le héros en 2011. Romain, tu as d'ailleurs une trace de ceci sur un des principaux forums de littérature interactive francophone, la Taverne des Aventuriers. Et apprenez à mes auditeurs et à la joie sûrement de Danou qu'en 2021, le clan des sangliers, de 251 paragraphes, permet de nouveau une plongée dans l'époque de la préhistoire. Voici énumérés deux romans interactifs préhistoriques qu'a dans son catalogue Posidonia Édition. Pas bien long, certes, le grand mammouth d'Anou, mais je le compare à un bon vieux jeu vidéo de console en cartouche des années 80 qui occupe une à deux bonnes heures de son temps. Le rapprochement avec le jeu vidéo n'est pas innocent. Parce que selon moi, trois niveaux de jeu se dessinent dans le Grand Mammouth, symbolisés par des carrefours de vallées décrits au paragraphe 1, 4, 141, avant d'atteindre notre but final, le cimetière des mammouths, où il s'agit de récupérer donc le crâne de Toga, déifié par notre tribu. Étonnamment, la difficulté décroît en passant d'un niveau à l'autre. Les meilleurs épisodes d'aventure, pour moi, se passant entre les niveaux 1 et 2. J'ai ainsi une belle frousse face à une des tribus que tu cites, Danou. Des cannibales coiffés de crânes humains, qui habitent une vallée interdite. Ceux-ci m'ayant capturé pour en faire leur repas, j'ai dû m'échapper groggy de leur grotte, sans Romain, un panneau de signalisation indiqué sortie. Sinon, la traversée du marécage, ailleurs, promet son lot de pièges, rappelé également par Danou, avec par exemple le risque de mourir envasé. Chose curieuse, c'est la manie qu'ont les auteurs dans cet opus de nous faire faire maintes fois de possibles retours sur nos pas, ce qui mange du paragraphe pour rien à la longue. Il est sympa autrement la petite enquête à mener sur où est passé Toga le mammouth compiste. Traces de pas, touffe de poils, etc. validant qu'on est bien sur le bon chemin. Pour conclure, les amis, amusez-vous, comme moi, avec Danou, sur sa chaîne Twitch, Danou LDVLH, consacrée au livre-jeu et j'annonce que Danou va donner en 2023 leur chance également à pas mal de bonnes publications numériques. Ce sera chose à suivre début février, et une extension de cette première sera vivre aussi sur Imaginaire, une forme de collaboration à distance que les réseaux permettent, un double jeu, comme le thème de notre futur salon de mai. Voilà les amis, après le duo franco-suisse de moi et Danou, direction la Belgique avec Solo d'Angèle pour quelques pas de danse sur le 101.5. La meilleure fréquence FM, évidemment. Bye bye et rendez-vous en fin janvier.
C'est promis, la dernière fois que je me prends la tête, j'avais dit plus de compromis. Donc là j'ai plus rien à compromettre. Les relations m'ont abîmé et d'autres m'ont rendu très heureuse. Mais malgré tout c'est décidé, plus jamais je ne tombe amoureuse. Alors on continue de croire en l'amour, on répète les mêmes fautes, on pense que ce sera pour toujours. Alors je continue de croire. J'ai promis l'impossible, c'est pas faute d'avoir essayé. Mes échecs peuvent t'en témoigner. Pourquoi attendre tout de l'autre pour combler nos manques et nos névroses? Pourquoi c'est cap, pourquoi c'est rose? Pourquoi dévier la méthode si personne n'ose? Alors on continue de croire en l'amour, on répète les mêmes fautes, on pense que ce sera pour toujours. Alors je continue de croire en l'amour. Prochaine fois c'est promis, on pourra réinventer les règles. On choisit ce qu'on définit, l'amour, l'amitié, le reste. Pourquoi attendre tout de l'autre pour combler nos manques et nos névroses? Pourquoi c'est casse, pourquoi c'est rose? Pourquoi dévier la méthode si personne n'ose? Alors on continue de croire en l'amour, on répète les mêmes fautes, on pense que ce sera pour toujours. Alors je continue de croire.
On a récupéré Pierre-Marie dans le studio de Radio G. Ça va ?
Oui, très bien. Et toi ?
Ben oui. Et bonne année, au fait, aux auditeurs d'Imaginaire. C'est notre première émission en 2023.
Si oui, et ça sera une année riche en rebondissements, je le pense sincèrement.
Ah ok, super.
Pour Imaginaire, j'entends. Après, pour le reste, chacun...
Bon, alors on commence avec une petite exclusivité là. Tu vas nous présenter un livre qui n'est pas sorti.
Non, c'est pas exactement ce que j'ai expliqué. Je vais présenter un livre dont le deuxième tome n'est pas encore sorti. Le deuxième tome sort courant février 2023. Mais il est déjà sur notre table. Et oui, l'éditeur a été gentil. Comme le livre a été écrit d'une seule traite, c'est un diptyque.
Ah ouais.
Il a été écrit d'une seule traite, mais pour des raisons éditoriales, a été coupé en deux. Et du coup, le deuxième tome, il est déjà imprimé et les blogueurs l'ont déjà reçu, et nous aussi notamment, puisque Aurélie Mendelstein participera à l'Angers Geek Festival qui se passera les 1er et 2 avril à Angers. Vous aurez l'occasion donc de l'écouter parler sur une table ronde qui traitera de la moralité dans l'imaginaire.
Mmh.
Et du coup, je vais vous parler de son dernier roman. Le premier tome était sorti en septembre 2022, deuxième tome en février 2023, fin du diptyque. Elle qui nous avait habitué beaucoup à des one-shots ces derniers temps, d'ailleurs elle n'avait fait quasiment que ça, là elle nous a sorti un diptyque, en plus de sortir actuellement une BD. Je vous laisse aller voir vos libraires préférés pour avoir plus d'informations que ça. Sachez toutefois qu'elle a un petit peu rompu le pacte qu'elle avait avec les lecteurs, la BD se passe bien. Ce qui change beaucoup. Dans ce roman, l'épée, la famine et la peste, nous allons suivre trois personnages. Trois personnages... Deux hommes, une femme. Le premier homme que nous allons rencontrer, c'est Cillian, un jeune garçon bègue, un petit peu impotent. Ensuite, nous allons rencontrer un deuxième homme d'importance, j'entends, Sullivan, un vieil homme, un ancien croisé, un petit peu désœuvré, laissé pour compte. Et une femme, surtout une femme, Erin, une jeune femme, plutôt paysanne, tisserande, qui se rendent, et malmenés. Ces trois personnages ont leur importance, et cette non-parité, cette majorité masculine est faite exprès puisqu'elle sert ce roman. Ici, on va parler beaucoup des laissés pour compte, pas dans le sens société, mais de ceux qui n'ont pas eu le choix dans la vie et que la société a mis à son banc. L'épée, la famine et la peste, si jamais ça vous parle, c'est trois des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Nous avons donc la guerre, la famine et la peste. Le dernier étant la mort, mais les trois autres amenant la mort, on peut s'en passer. Chacun des personnages reflète un des cavaliers de l'Apocalypse. Dans ce monde, on nous le cite, c'est le royaume de Common Cowl. Alors j'ai une prononciation pourrie, je suis désolé, mais juste le nom devrait vous faire tilter, c'est un royaume fantasy. Il n'a aucun lien avec notre royaume. Et ça pourrait être un royaume de contes de fées, puisque c'est un royaume qui est en bordure d'une mer. Il y a des châteaux, il y a des princes, des princesses, des chevaliers.
Il y a quand même des croisades.
Et il y a une croisade, merci de spoiler.
Mais tu as dit qu'il y avait un croisé. Donc
Et oui, parce qu'il y a une princesse qui s'est fait mordre par une araignée qui venait d'un pays lointain au milieu du désert. L'araignée est revenue en même temps qu'un navire marchand et l'a piquée. Et à partir de là, quelque chose d'épouvantable a commencé. Les araignées se sont répandues. Mais ce ne sont pas les jolies petites araignées que vous pourriez avoir. Alors quand je dis jolies, ça dépend pour qui. Pour certaines personnes, il n'y a pas de jolies araignées. Mais toujours est-il qu'en France, on a de la chance, bien peu sont mortelles. Et là, il y en a une petite dizaine d'araignées qui n'ont rien à voir avec celles de nos contrées, puisqu'elles agissent sur les personnes. Il va y avoir des araignées qui font rentrer une sorte de démon, en fait, qui vous mettent en rage. Vous avez envie de tout tuer, mais c'est pas comme la rage qu'on connaît, où là, c'est un effet définitif. Vous êtes en rage et vous ne vous en sortez plus jusqu'à en mourir. Là, non, c'est quelque chose vous énerve, vous avez une montée de sang, c'est une araignée rouge, vous voyez rouge, et vous tuez tout ce qui tombe sous votre main avant de vous réveiller. Tant qu'on ne vous énerve pas, vous êtes quelqu'un de normal. Une autre araignée, quand elle vous mord, soit elle donne des visions à certains hommes, soit elle les tue. Mais pour les femmes, elle les transforme en arachnes. Elles ont des pattes qui leur poussent, 8 pattes qui leur poussent. Leur abdomen se scinde et elles deviennent mi-femmes, mi-araignées, comme la créature mythologique grecque. Et puis d'autres, juste des araignées qui vous font sombrer dans la mélancolie, la dépression, peuvent même vous pousser jusqu'au suicide. C'est pas joyeux, dit comme ça. Et effectivement, dans ce royaume, de plus en plus d'endroits deviennent des zones mortes, pas parce qu'il n'y a plus de vivants, mais parce que l'être humain n'y est plus toléré. Les araignées tue tout ou fonce entre tuer tout. Ce sont des zones de non-droit où la nature a repris son droit. Il faut peut-être rappeler que l'écologie est un thème fort, défendu par Aurélie. Ces trois personnages, donc, eh bien, l'épée a été mordue par une araignée rouge, la peste a été mordue par une araignée et devient une arachne, et il reste Silian. Mais Silian, il n'a pas été mordu par une araignée. Non, non, non. Lui, il est bègue, il est impotent, il a été maltraité par les autres enfants, puisqu'on nous dit qu'il a une petite dizaine d'années. Il a été maltraité par les autres enfants, et en se réfugiant dans une maison délabrée en plein milieu d'une forêt à la Hansel et Gretel, il est tombé sur un homme de fer à la tête de loup. Et une fois qu'il l'a revêtu, il a entendu des voix dans sa tête, mais des voix de loup, qui le font peu à peu se transformer en loup-garou. Et loup-garou, c'est bien, enfin, c'est bien, ça dépend. Là, tant qu'il ne retire pas son casque, il ne se transforme pas en loup, mais il a quand même des accès de rage, et puis il a des compétences un petit peu super-héros qui l'aident dans son combat. Ces trois personnages deviennent donc différents. Et dans un monde où les araignées posent autant de cataclysmes, eh bien, la faveur religieuse se définit comme le seul rempart. Et tout être fantastique, quelle que soit sa typologie, devient à abattre, au mieux à brûler. Parce que quand même, il n'y a pas de raison, un bon feu de joie, c'est un événement familial. Nos trois personnages se rencontrent totalement par hasard et par nécessité, et n'ont qu'un seul but, échapper à tout croisé qui chercherait à le tuer. C'est un roman qui est très intéressant, et qui discute d'un thème fort à notre société actuelle, puisque à la base, aucun de ces personnages-là n'avait eu le moindre élément perturbateur dans sa vie. Il y a eu des conjonctures qui ont fait que la ferveur collective a cru en une possibilité. Et à force d'être rejeté et d'être estampillé de telle manière, les personnes ont fini par le croire et donc à créer par une sorte d'effet placebo ce qu'il deviendrait leur vie. Alors là, on vous l'explique d'une autre manière, mais c'est ça, en fait. C'est comment est-ce que les gens dans une société, les personnes totalement normales, finissent par devenir ce qu'on craint d'eux. Le premier roman s'arrête au moment où les personnages n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus qu'une seule solution, qu'une seule voie de sortie, se révolter et se battre. Le deuxième roman, la deuxième partie du roman, montre la solution ou comment on s'en sort. Après, je porterai les mêmes avertissements que j'ai l'habitude devant Aurélie en disant, si vous avez tendance à vous attacher au personnage, lisez pas, c'est pas pour vous. Il y a un happy end dans ces romans, il y a toujours un happy end dans ces romans. Le monde va mieux, les personnages un peu moins. Je vous laisse en compagnie d'un de mes groupes préférés, 6 heures. Et je ne prononcerai pas le titre parce que franchement, j'ai pas l'accent.
Up in your broken mind, I keep searching, never been able to find a light behind your dead eyes, not anything at all. Try to swim.
terrified. All I really want is something beautiful to say.
C'était Words as Weapons, Pierre-Marie, le titre de ce morceau de 6 heures.
Oui, mais je ne m'amuse plus à prononcer l'anglais.
Ça date de 2014 quand même.
Tout à fait, c'est un hit très très récent, dont les paroles sont la joie incarnée et qui évoque sans problème ce diptyque.
Mais regardez sur YouTube les commentaires des gens sous le clip et apparemment ça a sauvé la vie à beaucoup de gens en fait, cette chanson, sans rire. Enfin, ça leur a donné en tout cas la force de continuer... Dans les coups durs, quoi.
Je me permets une petite parenthèse, puisque j'ai manqué à mon devoir. La chronique que je viens de faire, donc L'épée, la famine et la peste en deux tomes d'Aurélie Wennerstein, je n'ai pas prononcé une fois le nom de son éditeur, enfin de sa maison d'édition. Il s'agit de Scrineo.
Tu nous avais déjà présenté le premier tome
à la rentrée littéraire, tout à fait.
Ah, c'était à la rentrée littéraire.
Rentrée littéraire en septembre 2022 à la Bibliothèque Toussaint,
oui.
Qui nous accueille chaque année pour faire une présentation des 4-5 coups de cœur en fantasy de l'année.
On avait fait notre petite soirée Retour vers les futurs aussi au mois de décembre. Et là, on remet le couvert le samedi 21 juin pour la nuit de la lecture.
Tout à fait, pour un blind test.
Ouais, entre autres, hein, on va aussi faire du jeu de rôle. Alors en fait, la nuit de la lecture, c'est un événement national. Avec un thème qui est choisi tous les ans, et cette année, c'est la peur. Donc forcément, ils ont pensé à Imaginaire. On avait déjà fait un quiz là-bas, effectivement. Enfin, c'est plus un blind test, parce qu'il y aura aussi des chansons à reconnaître. C'était quoi le thème cette année-là? C'était fantastique et araignée, justement.
Oui, on avait eu un truc sur les araignées. Puis d'ailleurs, il y avait une arachnologue qui était spécialiste et qui avait fait une présentation sur le livre de Fred Vargas.
Oui, elle avait bossé avec elle.
Qui est le nom d'une araignée, justement.
Ouais.
Et donc, il y avait toute une présentation.
C'est vrai. Et il sera encore question d'araignée, d'ailleurs, cette année, hein, dans la nuit de la peur, à la nuit de la lecture, parce que bon, c'est encore quelque chose qui fait peur. À plein de gens.
À un moment donné, il faudra peut-être leur soumettre l'idée de faire des choses joyeuses.
Mais c'était pas l'amour le thème l'année dernière. Bon, alors donc, pour ce qui nous concerne, ce sera de 20h à minuit. Il y a pas mal de choses. Il y aura de la musique, il y aura du théâtre d'impro. Hein.
Oui, les espressos seront là.
Ouais, alors ils passeront juste après nous, en fait, dans la salle d'études.
Vous venez nous voir, vous écoutez de la musique, vous répondez à des questions, vous restez assis, vous voyez un théâtre. Franchement, comme programme de soirée,
plein,
c'est bien.
Plein de choses. Nous, notre blind test, ce sera à 21h15. Donc, on va essayer de faire une heure. Voilà, il y aura probablement deux grandes équipes et tout. Et puis... pas mal de questions et de choses à deviner. Il y a aussi quand même pas mal d'animations pour les enfants. Donc un petit spectacle qui s'appelle Délivrer des livres, des courts-métrages dans la salle du conte, hein, donc ce sera pour la jeunesse, et notamment un espace-jeu en bas auquel je vais participer. Donc il y aura beaucoup de jeux de société sur le thème de la peur, enfin des fantômes, des maisons hantées, des monstres. Et je ferai jouer justement une partie de Monstre, le jeu de rôle tiré de...
Du monde de Sphar.
Ouais, du multivers de Sphar, où on retrouve Petit Vampire, Grand Vampire, Aspirine, on va dire un peu, c'est les séries sur lesquelles ont été basées ce jeu de rôle chez Black Book. Et d'ailleurs, je ferai jouer un scénario... Non, mais je ne vais pas le dire, parce que sinon,
je m'auto-spoil. Mais si, il faut donner un peu envie.
Et c'est à partir de 7 ans. Alors peut-être aussi que je ferai jouer Trouilleville, hein, qui est un jeu de rôle que je viens d'acquérir, hein, qui est un petit jeu qui est sorti aux éditions Macaca, qui font plus des bandes dessinées, on va dire, à choix multiples d'habitude. Et c'est aussi un jeu dans lequel on incarne des monstres qui veulent vivre tranquillement dans une forêt. Et ils sont notamment embêtés par des bûcherons. Donc, je dirais une petite partie de 30 minutes. Ça va jusqu'à 9 ans, quoi, quelque chose comme ça. Il y aura aussi un atelier tatouage éphémère, hein, un atelier masque, avec des masques qui font peur, qui seront réalisés par l'Institut Confucius, un atelier maquillage. Et puis, il y aura des boîtes mange-main aussi. Êtes-vous prêt à mettre la main dans une des boîtes où vit peut-être un horrible monstre ? Ça me fait un petit peu penser à Dune. Il y aura un arbre à peur aussi, où on écrit nos peurs et ça permet de s'en débarrasser. Et puis des attrape-peurs, qui sont des petits cabinets d'exorcisme qui seront présentés par des gens des musées d'Angers. Et aussi un photomaton-peur. Donc en fait, je me demande s'il ne faut pas venir déguisé.
Ah, faut laisser parler sa créativité. Ou bien ouais. Tu viens déguisé, ou bien si c'est comme les années précédentes, tu trouveras des déguisements sur place pour.
Ah bah il y aura un atelier maquillage déjà. Voilà, hein.
Pour quelques activités.
Alors il y aura des lectures de textes aussi, et puis c'est pas alors la nuit de la lecture finalement, ça dure pas qu'une nuit, ça commence dès le jeudi. Donc à la librairie Lerio, il y aura des lectures de textes, alors de livres qui ont fait frissonner et une découverte de leurs adaptations cinématographiques. Je sais pas comment ils vont lier les deux. Et puis le vendredi soir, à la bibliothèque universitaire de la Cato, il y aura une course contre la montre qu'on nous promet terrifiante, avec différentes épreuves. Donc il faut monter des équipes et tout. Enfin bon, vous pouvez vous renseigner au 02 41 81 65 30. Ça va être toute la soirée. Et puis pour les plus jeunes aussi, le samedi, il y aura des lectures à la Luciole. Pour ceux qui parlent anglais, il y a la bibliothèque anglophone. Et puis il y a aussi une nuit de la peur qui aura lieu le samedi après-midi à la maison Carnet, avec des lectures d'Edgar Poe, Maupassant, Apollinaire, etc. Enfin des classiques du fantastique. Ce sera lu par les gens de l'association Arfan. Et du coup, je vous propose qu'on s'écoute une petite musique en lien avec Poe, en fait. J'ai réécouté ce groupe Misty Roses récemment, et ils ont un morceau qui s'appelle Mario Andario, qui est énormément référencé Edgar Poe. Donc on s'écoute ça tout de suite sur le 100.5, puis après on passera à l'interview de Marguerite Imbert qu'on vous aviez faite avec Karine aux Utopiales.
Dario. hatching rooks and ravens rampant. Raise a wire sharp, they'll gather.
Dans l'imaginaire, un duo anglo-américain qui avait fait trois albums dans les années 2000, un extrait de leur troisième album. On passe à l'interview de Marguerite Imbert. On va enfin entendre la voix de Karine dans cette émission ce soir, parce que c'est elle qui a...
Est-ce qu'on l'attendait, vraiment? Ah, elle n'est pas là pour se défendre,
Karine,
c'est méchant.
Karine, si tu nous écoutes, des bisous.
Non, l'interview était très très étonnante. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça comme interview, et c'était assez lunaire, mais très très intéressant. Une vraie chouette rencontre comme seules les utopiels peuvent les procurer.
Allez, on s'écoute ça tout de suite dans l'imaginaire.
Bonjour Marguerite Imbert. Le voyage est au cœur de ton roman, Les flibustiers de la mer chimique. Est-ce une influence de ton propre parcours sur la route ?
Alors je pense que oui, puisque quand j'ai écrit ce roman, je me trouvais au Japon. Je revenais d'un voyage au Vietnam au cours duquel j'avais écrit mon premier roman, que j'avais donc envoyé à Albin Michel, et j'étais très stressée, cette situation. Et j'avais un ami qui allait très mal, et évidemment avec le décalage horaire et la distance, je ne pouvais pas faire grand-chose pour lui. Donc j'ai décidé de lui envoyer un genre de feuilleton, ils sont un genre de page-turner rigolo, léger, un petit peu spectaculaire, en lui disant une page par jour. T'auras une page par jour, et c'est pour te remonter le moral. Bon, et au bout d'une dizaine de jours, je me suis aperçue que l'histoire commençait à tenir sérieusement debout. J'y réfléchissais beaucoup plus que ce que je m'étais promis, et c'est devenu un véritable projet de roman. Voilà.
D'accord. Et au travers du personnage savant et cultivé d'Alba, tu interroges la foi et la confiance du personnage. Peux-tu nous parler davantage de cette critique ?
Alors le personnage d'Alba, il est à la fois effectivement savant et cultivé, mais en même temps d'une naïveté incommensurable, puisque c'est quelqu'un qui va avoir cette mémoire hypertrophiée, qui va tenter d'emmagasiner en fait des références culturelles, historiques, scientifiques venues de temps passé. Donc il n'y a plus de témoins, il n'y a plus personne pour transmettre la culture et la connaissance en dehors du support écrit. Donc c'est un personnage qui va avoir avalé des magazines, des podcasts, tout ce qu'elle a pu trouver en fait qui s'apparente à de la culture. Qui va les croire sur parole, qui va les compiler et essayer d'en faire une sorte de gloobie-boulga de culture. Et une fois sur deux, évidemment, elle se plante, parce que quand on ne sait pas comment interpréter, quand on n'a pas de professeur pour interpréter la connaissance, bah, on fait de faux liens, on comprend en travers, etc. Donc elle a une vision de l'histoire passée qui est à la fois extrêmement riche et complètement à côté de la plaque. Et c'est quelque chose qui m'a parlé, parce que c'est... Bah, l'effet que je me fais assez souvent, en fait, avec le peu de culture que j'ai, c'est-à-dire d'essayer de l'appliquer à tort et à travers sur des sujets que je ne maîtrise pas pour aussi en avoir les clés. Et j'ai l'impression qu'au final, on est tous un peu réduits à ça, c'est en plus ou moins que d'autres. Genre moi, j'ai l'impression d'être très souvent réduite à ça. Voilà. Donc le personnage d'Alba est une sorte d'exacerbation de ce phénomène-là, c'est-à-dire notre propension à colmater le vide avec le peu d'habileté qu'on a.
Et après ton premier roman, Qu'allons-nous faire de ces jours qui s'annoncent, qui est un roman politique, qu'est-ce qui t'a poussé vers la science-fiction pour le second?
Et ben, c'est marrant, mais je les considère à peu près du même niveau politique l'un et l'autre, en fait. C'est-à-dire que peut-être que Qu'allons-nous faire de ces jours qui s'annoncent était moins politique que ce à quoi on peut s'attendre, et qu'à l'inverse, les flibustiers de la mer chimique sont plus politiques. Je ne sais pas si ça a du sens, mais j'ai l'impression qu'ils témoignent d'une même volonté de parler d'un sujet qui est commun, c'est-à-dire le rapport de l'homme à la nature et ce que ça lui fait d'avoir ce rapport de plus en plus conflictuel. De quelle façon le divorce métaphysique entre l'homme et la nature pèse sur son comportement, la façon dont il va envisager l'avenir, sur l'ASA de Notre-Dame-des-Landes. On avait une lutte qui s'était organisée autour du politique, effectivement, de la résistance. On avait des gens qui essaient de faire communauté, de faire système, d'être des incubateurs d'idées. Et dans les flibustiers, on a des gens qui ont complètement lâché l'affaire, à l'inverse, qui sont en proie à une angoisse existentielle dingue parce que c'est déjà foutu, parce que l'apocalypse, elle a eu lieu, la Terre est... dans un état quasi à peine habitable. Et donc, eux, ils sont dans l'ambiance du foutu pour foutu. Autant foncer dans le mur, être des mégalomanes flamboyants. Et voilà, donc c'est deux réponses à la même question.
Et l'humour a une place importante dans ton roman. En quoi cela sert au récit? Et d'après toi, l'humour est-il une arme politique?
Alors, je pense que l'humour est une arme politique, bien sûr, et dire le contraire serait à mon avis très difficile à défendre. C'était important pour moi d'écrire quelque chose de léger pour prendre le contre-pied déjà de ce qui est attendu d'un post-apo. C'est d'ailleurs la phrase d'introduction du livre. C'est Alba qui dit qu'elle ne croit pas que l'apocalypse soit une chose nécessairement une chose triste. C'était une provocation, évidemment, un genre de pied de nez à la grille de lecture qui est habituellement faite de ce genre-là. Et en même temps, une façon de rafraîchir le sujet et d'être du côté de l'humain, quelque part, là-dedans, parce que ce que fait l'humain quand il est confronté à une situation dramatique, inhabituelle, en fait, il en fait son quotidien. C'est-à-dire que peu importe à quel point c'est terrible, à quel point il est en souffrance, il va trouver une façon de relativiser. Alors parfois, on peut être consterné de la façon dont il relativise. Et d'ailleurs, des observateurs extérieurs, nous regardant nous en ce moment, pourraient se dire « Mais comment font-ils pour être aussi détendus ?» Parce qu'on a cette résilience, cette plasticité, en fait, et on arrive à trouver de l'humour, de la drôlerie, de la légèreté. On arrive à mettre de la distance entre nous et la catastrophe, en fait. Et c'est cette... à la fois ce don et cette inconséquence humaine, en fait, que j'ai voulu traduire dans le... Dans le livre, on a des personnages qui sont très très concernés par l'état de la planète et d'autres qui ne pensent qu'aux prochains bons mots qu'ils vont faire. Mmh. Et ça me semble finalement assez, alors c'est poussé à l'extrême, mais assez réaliste.
Ton premier roman, c'est de la blanche, ce qu'on appelle gentiment la littérature blanche. Ton deuxième, c'est de la science-fiction. Ça va le grand écart, tu le dis bien?
Alors faudrait demander ça à mes éditeurs, parce que je crois savoir que c'est pas si courant que ça, mais je pense que le genre, alors je vais dire une phrase qui pourrait être interprétée très différemment, mais le genre est à mon avis en passe d'être aboli, et notamment en littérature. C'est-à-dire que la différence entre la littérature blanche et la littérature de genre, je trouve, dans beaucoup de cas, est ténue. Et j'ai été élevée en lisant de la littérature très, très poreuse, justement, par exemple, tout le réalisme magique sud-américain, qui est, je crois, mon genre littéraire préféré, en fait, est un espèce de... Ça donne des œuvres qui sont inclassables, qui sont à mi-chemin entre le récit politique et la fable fantastique, avec des intrusions du surnaturel, mais que tout le monde a l'air de trouver parfaitement logique. Donc j'aime bien cette porosité, en fait. J'aime bien que les genres littéraires ne soient pas complètement étanches.
Une sorte de continuité avec tout ce qu'on pouvait faire au XVIIe et même avant, notamment avec les fables de La Fontaine qui étaient des femmes et qui étaient éminemment politiques. C'était une critique politique. Toi, tu fais dans la critique de l'écho. L'écho politique, même. L'écologie.
Là encore, je ne sais pas si je me positionnerai comme une critique politique. Ce que j'essaie davantage de faire, c'est d'observer en fait, de témoigner de la façon dont les gens se sentent et vivent cette réalité inédite. Je ne suis pas sûre d'avoir ni la légitimité ni l'appétit, en fait, de donner des solutions, en fait. En revanche, ce qui me semble important, c'est de restituer une ambiance et une, un portrait intime de l'humain face à cette éco-politique, justement.
Au tout début, tu parlais de page turner et de cette volonté que tu avais de détendre cet ami à qui tu as envoyé page par page tout ce roman-là. C'est un courant de pensée qui dit que, justement, si on veut abolir le cloisonnement du genre, c'est d'arrêter cette politisation du genre et de passer sur une lecture plus détente, divertissement. Qu'est-ce que tu penses de ça ?
Ah, pas nécessairement. J'ai l'impression qu'on lit déjà en fait beaucoup de littérature de genre mixte sans s'en apercevoir. Par exemple, le classique dont je me suis inspirée pour Les Flibustiers, c'est Les Fils de l'Homme, tout simplement. Et alors, comment parler des Fils de l'Homme, par exemple ? Est-ce que c'est un roman est-ce que c'est un roman post-apo ? Est-ce que c'est un simple roman anticipation ? C'est un auteur qui était pas connu pour être un auteur de genre particulièrement. Il faisait beaucoup de... Enfin, son roman est très social. Il est un peu politique aussi. Enfin, c'est un espèce de... Et pourtant, c'est un classique. Orange Mécanique, est-ce qu'on dirait que c'est de la science-fiction ? Pourtant, à l'époque, il n'avait pas été vraiment déclassé comme tel. Je pense à un certain nombre de romans qui n'ont pas eu à subir en fait, cet étiquetage. Et qui s'en sont très bien sortis indépendamment et à qui ça n'a pas et dont ça n'a pas amputé l'aspect politique du message. Il me semble qu'un même roman, selon la page où on se trouve, un petit peu comme les personnes selon le jour où on les croise, peut passer de du politique à la farce, à la poésie. Et le roman est un mini-monde en fait, souvent. Donc je pense à penser que en fonction de là où on se balade, on peut y trouver des salles différentes.
C'est une critique qui est souvent faite, notamment à Maupassant ou à Jules Verne, en disant que s'ils ne sont pas classés en imaginaire, c'est justement pour la postérité. Que la postérité fait que tu abolis les genres et tu les passes en une culture, dans un grand C. Mais du coup, ça fait perdre ce qui faisait l'essence même de la littérature de genre.
J'en discutais avec Jules récemment, effectivement, et on est plutôt d'accord sur la question. Je crois que vous avez raison et qu'il y a une condescendance feutrée, on va dire, souvent formulée à l'égard des littératures de genre, donc le policier, le roman noir, etc. Et après, la fantasy, littérature d'imaginaire, de façon générale, oui, il y a une gentille condescendance. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, oui, des nouvelles comme Le Horla de Maupassant et toute l'œuvre de Jules Verne a été un peu passée comme ça, un peu... discrètement sous l'ombrelle de la littérature générale. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est voué à se détendre, et j'ai l'impression que dans les années qui viennent, on va finir par accepter sous l'influence du marché anglo-saxon, notamment parce que le marché français est assez arc-bouté en fait sur cette notion-là, qu'on va finir par accepter que les genres soient poreux et arriver à mélanger un peu tout ça.
Récemment, dans l'actualité de la littérature française, on a eu le cas du prix Goncourt, qui a sorti un roman qui, pour nous, étant du genre, est forcément et foncièrement du genre sur des thématiques qu'on a l'habitude de lire et de voir. Mais lui, il a eu prix Goncourt et se refuse à cet étiquetage. Est-ce que l'acceptation du plus grand nombre, c'est justement ça ? Faire en sorte d'écrire de la blanche et de surtout ne pas mettre une étiquette alors que tout le reste du bouquin est du genre.
Oui, on pourrait répondre, en fait, quand on nous pose la question, qu'est-ce que vous écrivez ? Bien moi, monsieur ou madame, j'écris de la littérature, et puis s'arrêter là et refuser d'engager le débat. À vrai dire, moi, je suis moi-même en train d'y réfléchir, et je suis en pleine réflexion depuis un an et demi, deux ans, et je pense que j'ai pas encore fini. Donc, on va dire que les questions que vous me posez, je me les pose aussi à moi-même, et je me demande dans quelle mesure il faut que je segmente ce que j'écris en genres différents. C'est vrai que là, j'ai constaté, ne serait-ce que dans ce salon, que les lecteurs de mon premier livre n'étaient pas les lecteurs du second. Et pourtant, au final, quand on prenait le temps de discuter avec les gens, on s'apercevait qu'il y avait un continuum en fait entre les deux, et que finalement, il pouvait y avoir en fait cette association. Peut-être que puis après, je pense qu'il y a aussi des auteurs qui écrivent des choses très différentes, qui changent radicalement d'histoire en fait, tout en changeant de genre. Moi, j'ai l'impression d'explorer pour l'instant encore un peu le même sujet. Ça va être le cas sur le troisième roman et probablement le quatrième. Donc, que je l'explore d'une façon ou d'une autre, me semble-t-il, c'est toujours un peu la même démarche, la même histoire. Donc, peut-être que pour moi, la question est plus facile que pour d'autres, je ne sais pas.
Pour revenir à la jeunesse de ce roman-là, tu nous expliquais que tu as envoyé une page à ton ami pour l'aider à se sentir mieux. Je me pose une question. Pour sentir mieux, est-ce qu'on doit lire des choses qui vont mal?
Alors, à l'origine, parce que effectivement, c'est vraiment mal tourné, je suis d'accord avec vous. Mais à l'origine, en fait, il s'agissait d'un roman d'aventure, d'histoire de... je voulais écrire quelque chose d'un peu délirant avec des punchlines et des personnages loufoques, violents et charismatiques. C'était, à l'origine, ça n'allait pas plus loin. C'était un genre de Mad Max sans le message politique. Bon, effectivement, je me suis un peu laissée entraîner moi-même. J'ai mis le doigt dans l'engrenage de l'histoire. Et puis, une chose en entraînant une autre, j'ai restructuré le roman. Il est devenu ce qu'il est devenu. Mais à l'origine, je vous assure que c'était censé être divertissant. Ça allait rester pendant 15 pages à peu près. Et puis après, j'ai mis un truc triste. Parce que... voilà. D'ailleurs, en fait, initialement, en fait, Ismaël devait passer un très très bon moment sur le sous-marin des flibustiers, en fait. Et au final, en fait, j'ai voulu en faire un personnage fondamentalement mélancolique. Et je me suis aperçue que j'avais perdu de vue, en fait, le thème de base, qui était de faire quelque chose d'amusant. J'ai prévenu mon ami, je lui ai dit, bon, tu veux que je scinde en gros l'œuvre en deux et que je continue à écrire des petits trucs amusant, ou lui, ça lui plaisait vraiment comme c'était, donc j'ai continué à lui écrire pour lui. Et malgré le côté de plus en plus déprimant de l'œuvre, ça a continué à lui remonter le moral. Donc, tester le dépaysement.
Le temps tourne, on va peut-être parler du futur, tes projets. Tu repars dans la blanche, tu restes dans l'imaginaire, tu tentes un nouveau genre.
Je tente tout le temps de nouveaux genres. Là, j'ai publié deux nouvelles avec ActuSF. J'ai un troisième roman en préparation là, qui est à moitié écrit et qui est chez moi une source de stress encore plus grande que cette interview. J'aimerais le finir dans les mois qui viennent. C'est la littérature blanche, ça parle d'éco-anxiété. Donc a priori, ce sera toujours chez Albert Michel s'ils veulent de moi. Et après, on reviendra éventuellement au flibustier pour un deuxième tome. Voilà, j'imagine que c'est
un deuxième tome, un spin-off, un préquel.
Un deuxième tome,
une suite.
Voilà. Et après, les projets ne manquent pas, le temps si.
Comme tout le monde. On passe au portrait chinois.
Je vous en prie.
Alors, dans un monde post-apocalyptique, justement, quel rôle aurais-tu, toi?
J'aimerais me voir comme une gestionnaire. S'il y a quelque chose que j'aime bien imaginer, c'est les apocalypses zombies. Donc tous mes proches ont une place dans cet apocalypse zombie, des rôles bien définis, et j'aimerais qu'ils s'y tiennent si jamais ça arrive. Et moi, j'ai celle de gestionnaire. Donc c'est un rôle qui est confortable, mais qui est distribution des ressources, allocation de qui fait quoi, renforcement de la base.
Et décider qui en sacrifie.
Si vraiment la situation l'exige. Enfin,
un peu la responsabilité. Et quel livre de science-fiction serais-tu si tu avais cette possibilité de te transformer en livre?
Quel livre de science-fiction? Le Messie de Dune, peut-être.
Mm-hmm.
Voilà.
Pour quelle raison?
C'est un roman qui est désespéré. C'est un roman qui est... c'est un roman que pour le coup je trouve très, très, très politique, en fait. Cette suite de romans jusqu'au tome 4, j'ai trouvé ça incroyablement politique, ou en tout cas peut-être plus métaphysique. Les deux sont poreux aussi, mais j'ai trouvé qu'il y avait dedans une désillusion, un désenchantement, en fait, qui m'a tellement façonnée que je trouve qu'il fait un peu partie de moi, ce roman.
D'accord.
C'est un peu mièvre comme façon de le dire, mais...
Et pour la dernière question, si tu étais un personnage emblématique de la littérature, lequel serais-tu?
Je pense que je serais le personnage principal, quasiment le seul personnage du livre Sous les ossements des morts, de Olga Tokarczuk, qui est le prix Nobel de littérature 2018. Elle a écrit un roman sur une femme d'une cinquantaine d'années, une femme d'âge mûr, là je n'ai jamais vraiment précisé, je crois, qui vit toute seule dans un territoire enneigé, en fait. Et il y a c'est un village quasi désert, en fait, et il y a des disparitions d'hommes et d'animaux. Et elle va mener une sorte d'enquête. C'est une femme qui est bourrue de peu de mots, contrairement à moi d'ailleurs. Et je m'identifie à elle parce qu'elle a ce rapport très sensoriel à son environnement. Elle vit dans un monde qu'elle trouve inquiétant, qu'elle trouve violent. Et elle se sent plus proche de l'animal que de l'homme. Elle va mener l'enquête sur ses morts, en fait, et réaliser que ce sont les animaux, en fait, qui ont tué tous ces gens, en fait, et qui avaient pour point commun d'être des chasseurs. Et l'ambiance, elle est feutrée, elle est sombre, elle est, elle est très portée sur les petites choses qu'elle remarque. C'est une personne qui a une manie du détail et voilà. Et elle m'a beaucoup marquée.
D'accord, très bien. Eh bien, nous te remercions pour cette interview très intéressante.
Merci.
Et j'ai vraiment très hâte de te découvrir sur tes autres livres également.
Et pour clore cette interview, quelle musique choisis-tu ?
Alors, j'aimerais partager une chanson dont j'espère ne pas écorcher le titre. Donc, Naftuli Nusak de David Krakauer. Donc, c'est de la musique klezmer.
D'accord. Je te remercie.
Merci, bonne journée.
Marguerite nous en voudra pas trop, mais il faut que je voulais parler un petit peu de premier plan quand même, avec toujours David Krakauer en fond.
C'est pour rendre ta voix suave.
Mais notamment, alors premier plan déjà, c'est double jeu. Le thème cette année, donc thème qu'ils ont volé à l'association Imaginaire, hein, Pierre-Marie. En plus, ça s'écrit exactement pareil.
Franchement, je suis extrêmement déçu.
C'est un peu notre thème cette année. Ce sera le titre de notre anthologie. Et comme l'année dernière, il y a une sélection Vertige aussi, donc plutôt consacrée au cinéma fantastique, avec une soirée Délire du Nord, comme l'année dernière, du cinéma fantastique nordique, des films plutôt en avant-première, je pense, hein. Enfin, comme souvent avec premier plan. Une soirée double jeu horrifique avec deux classiques, hein, du fantastique The Thing de Carpenter et Possession de Zulawski, et une soirée fantastique espagnole avec El Doble. C'était un téléfilm réalisé par Rodrigo Sorogoyen qui a droit à sa petite rétrospective à ce festival. Et quand même, ce téléfilm est adapté d'une nouvelle de Ray Bradbury. On parle d'un double aussi. Un homme qui engage un double pour s'occuper de sa femme pendant qu'il n'est pas là. Ça pourrait finir dans notre anthologie aussi. Mais Ray Bradbury l'a déjà écrit. Il y aura aussi Les Révoltés de l'an 2000 le même soir, un petit classique du fantastique espagnol. Et puis pour terminer, une soirée avec Lucille Adzialilovic, j'arrive pas à le dire. Bon, du cinéma un petit peu fantastique, mais un petit peu intello. Je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas une soirée navée comme l'année dernière.
Ouais, un bon petit nanar.
Ouais, sur grand écran quand même, ça fait du bien. Bon, allez, on va se quitter.
Avec tristesse, regret, mais on est là dans deux semaines.
Ouais, et puis donc avant, eh ben, vous pouvez venir jouer avec nous à la nuit, la lecture, à la médiathèque Toussaint, le samedi 21 juin. Janvier.
Vous avez les flyers dans toutes les librairies et à la bibliothèque, si jamais vous avez besoin. Et sur leur site, bien sûr, si jamais vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire sur les activités proposées.
Pas de voix du scénarium après nous. Maintenant, il est passé aux semaines impaires sur Radio G. À plus.
Ouais.